Marche du Monde, présentée par Véronique Guémard.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes acteurs et témoins de l'histoire. À l'occasion de l'année du Portugal en France, la Marche du Monde revient sur l'émigration massive des Portugais vers la France dans les années 1960-70, une émigration douloureuse qui fait écho à celle que vivent aujourd'hui dramatiquement de nombreux Africains subsahariens, érythréens, afghans ou ukrainiens.
Je m'appelle José Vieira. Je suis réalisateur et je suis arrivé en France en 1965. Mon père est arrivé en 1963 parce que bon, il était 5 enfants et qu'il avait vraiment du mal à s'en sortir. Il est parti de la région de Viseu, qui est dans la région centre du Portugal. Quand il est parti, ça faisait pratiquement 40 ans qu'il y avait une dictature au Portugal. La guerre coloniale avait commencé en 1963, ça devenait extrêmement compliqué. Il y avait de plus en plus de répression. Mon père n'avait pas du tout envie de partir. C'était pas quelqu'un qui avait envie de quitter son pays. Je pense qu'il a été vraiment acculé. C'est vraiment cette impossibilité d'entrevoir un avenir, quoi.
Au début des années 1960, le Portugal se vide de ses habitants. Plus d'1,5 million émigrent pour fuir la misère, la dictature de Salazar et les guerres coloniales. 900 000 Portugais partent pour la France, en quête d'une vie meilleure, comme le père du réalisateur de films documentaires, José Vieira. Une migration qu'on a souvent qualifiée à tort de silencieuse, comme le rappelle l'historien Victor Pereira, actuellement à l'Institut d'Histoire Contemporaine de l'Université de Lisbonne.
En France, on pense souvent bien connaître l'immigration portugaise, avec souvent cette idée que c'est une immigration qui ne fait pas problème. Et donc, si ça ne fait pas de problème, pourquoi s'y intéresser plus que cela? Plus que les apparences, l'apparence est souvent celle d'une communauté bien intégrée, c'est le discours qui est sans cesse répété. Et aussi l'idée que pourquoi faire l'histoire de gens qu'on considère sans histoire? Alors que, comme on le voit dans des films de José Vieira, c'est une venue qui a été souvent dramatique, souvent difficile, avec des conditions de vie à l'arrivée notamment des bidonvilles, de Champigny, qui sont quand même un peu connus. Mais donc, il y a surtout une focalisation très très forte sur d'autres migrations, notamment les migrations maghrébines, ou actuellement les migrations subsahariennes, ou d'Asie. Et ce qui fait que les Portugais ont souvent servi à des fins politiques comme une sorte de négatif ou d'inversé d'une migration qui serait causée sans problème, alors que des migrations, d'autres migrations, notamment des migrations actuelles, sont, elles, construites comme problématiques. Ce qui fait que derrière cette apparence, on ne cherche pas à creuser. Donc souvent, c'est une sorte d'ignorance qui a ses vertus ou ses vices, qui amène cette idée d'une immigration silencieuse.
Une immigration qui serait plus acceptable car européenne. Et surtout, qui fournissait des bras pour travailler sans protester dès le début du XXe siècle sur plusieurs vagues.
La première phase, c'est la phase de la Première Guerre mondiale. La France est en guerre, ses hommes sont dans les tranchées. Il faut produire plus d'armement, il faut travailler dans l'agriculture. Et l'État français va recruter des milliers d'hommes, plusieurs centaines de milliers, soit dans les colonies, en Algérie, au Sénégal, en Indochine, en Chine, qui n'est pas une colonie, mais aussi dans les pays qui peuvent encore fournir de la main-d'œuvre, qui ne sont pas eux-mêmes belligérants. En 1916, il y a un premier accord qui est signé entre la France et le Portugal. Et dans ce cadre-là, il y a environ 15 000 Portugais qui viennent. Ensuite, dans l'après-guerre, après 1918, les autorités françaises, déjà avec une idée basée sur une distinction des populations, c'est-à-dire qu'on a besoin de main-d'œuvre, mais on a besoin d'une main-d'œuvre dont on considère qu'elle puisse être assimilable et assimilée. Et cette main-d'œuvre dite assimilable et assimilée, ce sont des Européens, donc notamment les Indochinois, les Algériens, les Sénégalais qui étaient en France, on les fait repartir. Et on essaye d'attirer des populations européennes, donc blanches. Ça va être les Tchécoslovaques, les Italiens, les Espagnols. Et le Portugal, lui, refuse de signer un accord de main-d'œuvre avec la France. Néanmoins, dans les années 20, il y a 75 000 Portugais qui viennent en France. Grande majorité, immense majorité des hommes, et qui vont participer à la reconstruction dans l'est de la France, à Reims, qui vont travailler dans le Pas-de-Calais, etc. Et donc c'est le début d'un courant migratoire qui prend une certaine consistance, mais qui est brisé net par la crise économique qui touche la France en 1931. Et à l'époque, les autorités françaises ne font pas dans la dentelle et vont procéder à des expulsions, à des refoulements, à la fermeture des frontières. Ensuite, avec la dictature de l'État nouveau, le Portugal et Salazar qui est au pouvoir essayent d'éviter un retour de cette migration.
Donc Salazar, 1932,
Exactement, il devient Premier ministre en 1932 et va rester Premier ministre pendant 36 ans, jusqu'à ses problèmes de santé en 1968. Et Salazar notamment, en 1940, il accepte un accord de main-d'œuvre avec la France, donc il ne va pas du tout être appliqué, puisque la France va être envahie dans les semaines qui suivent. Et après la Seconde Guerre mondiale, le Portugal veut éviter que les Portugais aillent en France, parce que c'est vu comme le pays de la libération, d'un parti communiste extrêmement puissant. Et néanmoins, dépit de ses réticences, à la fin des années 50, il y a un mouvement clandestin qui existait déjà dans les années 30, dans les années 40 et au début des 50, qui va s'accroître et qui va donc être le Salto, donc cette émigration irrégulière et clandestine, et qui va pas cesser de s'accroître tout au long des années 60.
Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio.
C'est que Salazar, il a peur de la richesse. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on domine mieux un peuple qui est pauvre, qui est misérable. Parce que quand un peuple a un bon niveau de vie, il peut manger à sa faim, il peut s'instruire, il peut se rendre conscient de ses devoirs de citoyenneté.
Le sentiment patriotique, l'organisation corporative et l'impérium colonial.
Des dizaines de milliers de Portugais, surtout des hommes, mais aussi des femmes, quittent alors le Portugal au début des années 1960, en prenant beaucoup de risques. José Vieira.
Il y a plusieurs périodes dans l'immigration pour la France. La période la plus dure va jusqu'en 64 à peu près. Quand on traverse l'Espagne, si on est arrêté, la police espagnole vous remet aux autorités portugaises. Par exemple, j'ai des gens qui m'ont raconté qu'ils ont été battus à coups de fouet. Ils étaient condamnés, puisque l'immigration est considérée pénalement à ce moment-là comme un crime. Ils sont condamnés, ils vont en prison. Tous ceux que j'ai rencontrés sont repartis, c'est-à-dire même avec le sursis, c'est-à-dire que s'ils étaient repris, ils prenaient vraiment cher. Et donc, il y a cette période qui est très compliquée, où même en France, il faut traverser la France clandestinement, dans des camions. Et là, en général, les gens arrivent à trouver un travail et avoir des papiers. Mais s'ils sont pris, par exemple, sur la route, dans des camions, enfermés dans des camions, il y a beaucoup de gens qui sont renvoyés au Portugal. Et j'ai retrouvé, par exemple, aux archives d'Andaye, jusqu'en 64, beaucoup de gens qui sont refoulés. Et puis, moi, je connais des gens qui ont mis un mois à arriver. C'est-à-dire que les gens attendaient des jours dans la montagne sans manger et sans boire. Les gens marchaient la nuit pour ne pas être pris par les flics. J'ai rencontré des gens qui parlent vraiment de soif, de faim, de gens qui étaient laissés sur le chemin aussi. C'est-à-dire que quand les gens étaient épuisés, on les laissait. Donc il y a eu des morts dans les Pyrénées et en Espagne. Quoi.
Le ordenado non dava para comprar nada.
Témoignage de Fernando Barreiro, extrait du documentaire de José Vieira en 2001, La photo déchirée.
Nada, nada, non dava para nada.
Avec mon salaire, je ne pouvais rien acheter. C'est pour ça que tout le monde cherchait à fuir d'ici, fuir la misère. Nous étions considérés comme des traîtres à la patrie. D'autres fuyaient pour éviter le service militaire, pour ne pas être envoyés dans les colonies d'outre-mer, en Angola, au Mozambique, et mourir là-bas. Alors beaucoup essayaient de fuir avant le service militaire, vers la France ou d'autres pays. Salazar ne laissait personne sortir du pays. Il préférait nous voir mourir de faim plutôt que de nous laisser partir. Alors nous avons dû partir de façon clandestine.
C'était dur, mais j'ai été obligée d'apprendre le français. Je suis restée en France 22 ans. Je suis partie du Portugal en 1969. On est passé par la montagne, la nuit, avec notre sac à main. Je ne sais pas par où je suis passée. Le passeur qui nous guidait connaissait les chemins. On a traversé dans une barque, à Friestas, au nord de Valença, et puis ensuite, à pied.
Tantos sonhos são desfeitos, uma mãe que afaga o peito, seu filho que vai partir. Para longe vai o imigrante, para outra terra distante, outro caminho a seguir. Mal ele sobe ao navio, ao coração dá-lhe um frio das saudades que já tem. E olhando o lenço branco que se agita, vem o pranto e a cena para ninguém. Nunca mais, nunca mais à terra de voltar.
L'immigration au Portugal est considérée comme un crime. Salazar ne veut pas que les gens s'en aillent.
José Vieira, réalisateur de films documentaires.
Il y a une guerre coloniale qui est déclenchée en Afrique, donc il faut absolument retenir tous les jeunes. Il y a des régions, par exemple, où 50% des jeunes ne se présentent pas à l'armée. On calcule qu'il y a à peu près 200 000 jeunes déserteurs, insoumis, réfractaires, qui vont partir à ce moment-là. Puis économiquement, Salazar, qui est un économiste et un maurassien en même temps, veut que les gens restent humbles, pauvres, dans un Portugal qu'il veut faire vivre, il le disait habituellement, que rien ne bouge, la paix des cimetières. C'était ça son idée. Il veut que rien ne bouge, c'est-à-dire que ce soit une société immuable. Ou à la limite, une société héritée de l'Inquisition, c'est-à-dire où la religion normalise tout ça. Ce qu'il voulait, c'est garder tous ces gens en esclavage, entre guillemets en servage, on va dire plutôt. Parce qu'il y a un véritable servage à ce moment-là. Si on n'allait pas à la messe dans certains villages, c'est un monsieur qui m'a raconté ça, on n'avait pas de travail. C'est-à-dire que c'est le curé qui menait la danse, quoi. Et puis il y a une propagande terrible. C'est-à-dire qu'on est à l'école. Nos livres de classe, c'est les manuels du parfait petit fasciste, avec de la morale chrétienne, avec le culte du chef, etc. Enfin, c'est l'Empire. Oh, bah oui, l'Empire. Alors là, on connaît toutes les capitales de notre empire. On ne connaît pas grand-chose d'autre, d'ailleurs. Donc, Angola, etc. On dit que le Portugal est un pays immense et qu'on doit être fier de ce pays-là. Donc il y a une propagande absolument terrible. Les gens ne sont pas dupes. À partir des années 60, dans les campagnes, la misère commence vraiment à être un peu noire. Et les gens vont partir. Et qu'est-ce qui va arriver inévitablement? Les gens vont retourner au pays pour ceux qui peuvent, ceux qui ne sont pas en âge de faire un service militaire. Ils voient les gens arriver, ceux qui sont restés, avec des voitures, bien habillés, etc. Mais ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? Donc va se produire ce plébiscite par les pieds contre ce régime-là. En 69-70, c'est 250 000 personnes en 2 ans qui vont quitter le Portugal. C'est l'exode le plus grand en Europe, en nombre, après-guerre. Alors après, plus tard, il y aura d'autres exodes avec la guerre de la vie beaucoup plus important. Alors on ne parle même pas de l'exode de ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc c'est dire non à un régime. C'est-à-dire, les gens n'avaient aucune possibilité de s'exprimer au Portugal. Ceux qui voient leur gueule étaient jetés en prison, traités de communistes directement. Même le mot liberté était interdit. Surtout pour les jeunes, c'est un pays invivable, quoi. J'ai retrouvé rencontré beaucoup de jeunes à la frontière récemment qui venaient de Guinée-Conakry. On est exactement dans la même chose. Une jeunesse qui étouffe complètement. C'est fermé, quoi.
Nunca mais, nunca mais, sua terra de deixar.
Beaucoup passent à salto, littéralement en faisant le saut, de façon clandestine. On dit aussi avoir un passeport de lapin. Avant 1964 et l'ordonnance qui assouplit les entrées en France, le passage clandestin est cher, c'est dangereux. Il faut payer des passeurs pour sortir du Portugal, traverser l'Espagne franquiste et franchir les Pyrénées ou traverser sans se noyer le fleuve Bidassoa pour entrer en France. Extrait du film de José Vieira, « Nous sommes venus », témoignage de la dureté de ces passages à salto, clandestins donc, au début des années 60.
Nous, on avait la grande volonté pour changer notre vie. Nous, on n'a pas croyé d'arriver. On n'a jamais cru d'arriver à destination. Non.
Le voyage a été tellement long qu'on ne voyait jamais la fin. Moi, j'ai eu envie de me rendre, envie d'abandonner, quoi.
Tant de jours. Ma femme ne savait pas déjà si j'étais vivant,
mort
si j'étais
vivant.
Mort.
C'est vrai que le passage dans les Pyrénées a été
un moment horrible.
On avait à la fois faim et peur, quoi, une espèce d'angoisse. Ah, et puis, oui. Il faisait très froid. Donc, soit tu marches, soit tu crèves, quoi.
Pour sécuriser leur traversée et ne pas se faire dépouiller par les passeurs, les émigrés déchiraient une photo d'identité, confiaient une moitié à leur famille restée au Portugal et renvoyer l'autre moitié dès qu'ils arrivaient sains et saufs en France. Et c'est à ce moment-là que le solde de leur traversée était payé aux passeurs. C'est le travail qu'expose en ce mois de mai dans la Galerie Maubert à Paris l'artiste Isabelle Ferreira, dont le père a fait cette traversée depuis le Portugal il y a 50 ans.
La photo déchirée, elle est intervenue dans la vie de mon père parce qu'il est venu comme ça à Salto dans les années 60, en 63 exactement. Et ça m'a intéressée de pouvoir retranscrire cette histoire, mais sans vraiment questionner la photo elle-même, mais plutôt ce récit en fait, plutôt l'histoire. Voilà. C'est un jeune garçon de 22 ans qui va décider de changer de sa vie parce qu'il ne voit pas... Il ne voit pas de futur, il ne voit pas vraiment tout ça est fermé, il y a la guerre dans les colonies et ses copains sont soit à la guerre, lui il a eu un accident de voiture qui fait qu'il ne peut plus faire le service militaire et ni la guerre et donc il s'en va. Et l'exposition s'appelle 9 jours et une vie parce que c'était le temps à peu près moyen d'un passage, voilà 9 jours et une vie. Donc l'exposition elle raconte un peu ces deux temps intermédiaires entre... un temps technique, j'allais dire, presque, 9 jours pour faire un voyage, et puis un temps intemporel qui est celui d'une vie, et voilà, d'une vie en particulier.
On quitte quelque chose et on ne sait pas vers quoi on va.
Ah oui, c'est le grand saut. Hein. Je dis souvent, il n'y a aucune raison de partir. Hein. Si on pouvait rester chez soi, avec sa langue, sa famille, son arbre, sa maison... On n'a aucune raison de partir et c'est fou de voir à quel point c'est des préoccupations très actuelles en fait. Que ces chemins empruntés par, qui étaient d'abord des chemins de contrebande par les Pyrénées, ce sont des chemins qui sont aujourd'hui, ces cols sont ouverts et fermés. Et, c'est toujours les mêmes histoires avec des gens qui viennent d'Afrique du Nord, etc. Ça continue quoi. Ce sont les mêmes endroits, les mêmes lieux de passage et les mêmes espoirs, exactement.
Monsieur Massenet, directeur de la population de l'immigration, déclarait le 31 décembre « Les autorités françaises vont pouvoir adapter l'immigration aux besoins objectifs de l'économie. »
Extrait du documentaire de José Vieira, « Nous sommes venus ».
La main-d'œuvre étrangère ne devrait pas être en chômage car elle n'est autorisée à travailler en France que en fonction de nos besoins pour occuper des emplois vacants, des emplois bien déterminés.
En 1964, les autorités françaises prennent le parti de laisser rentrer tout le monde en France.
Les Portugais.
Les Portugais, tout à fait.
L'historien Victor Pereira.
Avec l'idée que si les Portugais sont contraints de rentrer clandestinement en France, ils payent des passeurs, ils prennent des risques. Il y a de nombreux articles des années 60 sur des Portugais qui sont arrêtés ou des Portugais qui sont retrouvés morts. Et donc là, le choix qui est fait par le gouvernement français, c'est de dire on va accepter ces gens quand ils se présentent à la frontière. Et comme ça démantèlera les réseaux de passeurs entre l'Espagne et la France. Puis en 65 et en 66, le gouvernement de Franco va prendre cette décision qui peut nous paraître étonnante de nos jours, mais qui s'explique pour des raisons internes et externes.
Donc en Espagne.
Exactement. De faire que les Portugais qui se présentent à la Guardia Civil, à la frontière avec le Portugal, on leur donne des sauf-conduits qui durent 30 jours. Et donc à partir de 65-66, quand cette politique se met en place, les Portugais, en fait, ils n'ont plus qu'une seule frontière à traverser de façon clandestine. C'est la frontière entre le Portugal et l'Espagne, qui n'est pas la plus difficile, notamment dans certaines régions autour de Villalfumos, qui est un des points les plus importants de passage. C'est relativement plat. Et donc là, ça devient beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que le grand courant de l'immigration portugaise, c'est à partir de 69 et jusqu'en 74. À une époque où la France laisse rentrer les Portugais, où l'Espagne ne surveille plus, et où le propre Portugal concentre tellement ses moyens dans la répression, soit de l'opposition, du Parti communiste, des mouvements maoïstes, mais surtout dans les guerres coloniales. Et donc la police politique, dont le rôle était aussi de surveiller la frontière, désinvestit la frontière, et donc ça devient assez aisé de traverser cette frontière.
Alors que la plupart des pays d'Afrique proclament leur indépendance, le Portugal de Salazar s'enfonce dans les guerres coloniales. Environ 800 000 Portugais sont allés combattre en Angola, au Mozambique ou en Guinée-Bissau entre 1961 et 1974, mais 200 000 jeunes ne se présentent pas pour faire leur service militaire. Ils partent vers la France, la Suède ou l'Algérie. Plusieurs exilés et déserteurs portugais témoignent dans un livre tout juste traduit en français, « Exil » aux éditions Chandaigne. Ils étaient à Paris en avril dernier pour livrer leur récit.
Je m'appelle Fernando Cardoso. Je suis un émigrant déserteur. Quand j'ai traversé la frontière espagnole pour la France, c'était en 1970. On arrivait à la frontière française et on disait, moi, on parlait très mal français, délibérément, même si on parlait un peu. On disait, moi, travailleur portugais, aller à Paris, comme ça. On vous donnait un récépissé, c'était un document qui permettait d'arriver. Avec ce document, il fallait trouver du travail et trouver du logement.
Vous aviez quel âge?
J'avais 21 ans. Alors, avec ce document, vous avez un sauf-conduit pour arriver à Paris. Il fallait avoir une adresse à Paris. Vous allez à Paris où? Alors, moi, je l'ai à Paris chez ce monsieur au 15 rue de Moulinet.
Mais qu'est-ce qui vous a motivé à partir du Portugal?
Moi, j'ai fait 6 mois dans l'armée, mais je savais déjà que je n'allais pas aller combattre dans les colonies. Alors, je savais clairement que j'allais déserter, particulièrement violente, particulièrement cruelle.
Donc en Angola?
En Angola, en Guinée et au Mozambique. Alors, dans 3 fronts, des gens qui combattaient. Je n'étais pas d'accord avec la guerre. Je n'étais pas d'accord à aller combattre des gens qui voulaient son territoire, son indépendance, faire sa vie. Alors pour moi, c'était clair, absolument. Mais je suis arrivé en France comme émigrant, travailleur portugais pour aller travailler en France. Mais mon objectif, c'est, enfin, je vais aller travailler, mais mon travail, c'est un travail politique tout le temps.
Je m'appelle Antonio Barbosa Topa et j'ai pris ma décision très, très, très tôt. En 1961, il y a eu le massacre d'Angolais. Et moi, dans ma petite tête, à l'époque, je me suis dit, la guerre, j'irai jamais. Aller tuer ceux que je ne connaissais même pas, ceux qui étaient autant, sinon plus exploités que moi, non, ça jamais, jamais de la vie. Le 14 juillet 1969, et je suis parti avec un passeur et avec des immigrés comme moi, mais dont le motif était économique. On est encore vu comme étant, soit des lâches, parce qu'on n'a pas fait l'armée, soit très trop au pays. Alors, je ne me considère pas, si c'est de défendre mon peuple, oui, je ferai comme les autres.
Vieram cedo mortos de cansaço. Adeus amigos, não voltamos cá. E o mar é tão grande, e o mundo é tão largo. Maria bonita, onde vamos morar? Na barcarola canta marujada, o mar que eu vi não é como o de lá, e a roda do leme e a proa molhada, Maria bonita, onde vamos parar?
Vous écoutez RFI, La Marche du Monde.
Cette chanson du déracinement, Cansado do Destero, de Zeca Afonso, raconte ce déchirement des Portugais qui doivent quitter leur pays, leur terre, leur famille, que ce soit pour fuir la misère, la répression ou la guerre dans les colonies. Ils sont arrivés tôt, morts de fatigue, adieu amis, nous ne reviendrons pas. La mer est si grande, le monde est si vaste, jolie Marie, où allons-nous atterrir? Où allons-nous habiter?
Sino de bronze, lá da minha aldeia, toca por mim que estou para abalar, e a fala da velha matreia, Maria bonita, onde vamos parar? Vinham de longe, todos o sabiam, não se importavam quem os vinha ver, e a velha teimava, e a velha dizia, Maria bonita, onde vamos morrer?
Au début des années 60 et 70, ces milliers de Portugais arrivent en France pour la plupart sans papier et atterrissent dans des bidonvilles où s'entasse la main-d'œuvre bon marché qui reconstruira la France. Le père de l'historien Victor Pereira, lui, est arrivé en France dans les années 70.
Une des particularités de la venue des Portugais à cette époque, c'est qu'elle est irrégulière et que donc personne ne les attend. Et donc, le plus souvent, ils arrivent, en plus nombreux, et donc l'accueil est très précaire, ou on peut même parfois parler de non-accueil. Et il y a souvent des différences entre la province et la région parisienne. Mais notamment en région parisienne, il y a les célèbres bidonvilles, donc Champigny, certains bidonvilles de Nanterre, un peu plus tard Saint-Denis. Beaucoup de ces Portugais, hommes, travaillent dans le bâtiment, donc beaucoup vivent dans des algécos, dans des baraquements, dans des caravanes. Pour revenir à un point personnel, mon père a vécu un temps dans une caravane. Très souvent, les premières années de l'accueil ou de l'arrivée sont très difficiles. Et il y avait une très forte incompréhension des autorités françaises vis-à-vis de ces Portugais qui vivent en bidonville. Parce qu'il y avait déjà des bidonvilles en France. Et il y avait déjà, en l'occurrence, des Portugais qui avaient vécu en bidonville. Tout autour de Paris, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait la zone, qui maintenant est le périphérique, et où il y avait déjà des Portugais, des Français aussi, bien sûr, et d'autres populations qui vivaient à un ensemble.
Des Algériens, des Maghrébins, des Français.
Et beaucoup de Français, de classe populaire. Et les autorités françaises, quand elles voient l'arrivée de ces Portugais et leur entassement dans des bidonvilles, veulent assez vite les reloger, avec l'idée que ce sont des populations européennes, donc civilisées, et qu'elles peuvent accéder à la promotion HLM. C'est le terme qu'ils utilisaient à l'époque. Tandis que les Maghrébins, eux notamment, ne sont pas considérés assez civilisés pour aller vivre dans des HLM. Ce que les autorités ne comprennent pas, c'est que des Portugais rechignent au relogement. Parce que certains d'entre eux voient leur vie en France relativement courte et voient aussi un célèbre article d'un sociologue portugais qui s'appelle Alfredo Margarido qui s'appelle l'éloge du bidonville. Et en fait, il montre que pour ces populations qui ont été arrachées de leur village, qui n'ont jamais vécu en ville, et donc qui arrivent dans un monde urbain, d'un pays qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne maîtrisent pas la langue, le bidonville peut être protecteur. On peut trouver des compatriotes qui vont vous expliquer comment avoir une carte de travail, comment avoir une carte de séjour. Les entrepreneurs du BTP, notamment, avaient vite compris la chose et allaient à l'entrée du bidonville recruter des gens. Vous aviez même des antennes de l'administration qui s'étaient installées dans le bidonville. La CGT qui allait là-bas pour expliquer aux Portugais leurs droits. Il y avait des épiceries où on pouvait acheter de la morue. On pouvait cuisiner ce qu'on voulait et l'odeur de la morue n'allait pas gêner les voisins français. Souvent, il y a une mémoire qui est souvent résumée avec l'expression « les années de boue ».
Prévu pour 40 000 habitants, Massy-Antony n'est encore qu'un immense chantier où tous les modes de construction se sont donné rendez-vous. Toutes les techniques y déploient et comparent leur meilleure efficacité. Et cette confrontation montre que l'industrie française du bâtiment, achevant sa révolution, est devenue une des industries les plus modernes de notre pays.
À perte de vue s'étalaient des chantiers entre béton et boue. Nous, on n'avait que la boue. Et parfois l'hiver, le feu qui dévorait quelques baraques.
Extrait de La photo déchirée de José Vieira, qui a vécu, lui, 5 ans dans le bidonville de Massy.
Au début, quand on est arrivé, c'était incroyable. On arrivait, des fois, les chaussures restaient dans la boue, quoi, tellement c'était argileux. En plus, le terrain où le bidonville avait été fait était un espèce de terrain marécageux et c'était absolument épouvantable. Et en même temps, on retrouvait dans ce bidonville une ambiance de village, quoi. Avec les balles le dimanche, avec le voisinage, on était entre nous. Donc il y avait une espèce de force qui se créait là. Et en même temps, pour moi qui étais un môme qui allait au collège, par exemple, il fallait absolument cacher que j'habitais. J'avais honte, quoi. C'est la honte. C'est le début de la honte. C'est les premières humiliations aussi qui vont rester gravées à jamais dans ma tête, quoi. Parce que les enfants nous considéraient... La cour de récréation est un terrain absolument terrible quand on ne parle pas le français. Ouais, j'avais honte. Et puis surtout la honte de mon père d'aller avec lui à la sécurité sociale pour lui traduire, etc. La honte de marcher dans la rue avec mon père quand je croisais un copain parce qu'il allait dire « Tiens, c'est son père, c'est un péquenaud, etc. » Enfin, c'est vraiment assez compliqué, ouais. Et j'ai retourné cette honte en disant « Bon, voilà, je suis fier de l'histoire. » Enfin, fier. Moi, je suis fier de mon père. Moi, je ne suis pas fier de moi. Moi, je n'ai rien fait. Mon père, c'est mon père qui a fait tout ça, qui s'est battu pour venir, pour construire une baraque, pour essayer de nous donner une vie à peu près décente. Et je crois qu'il a énormément culpabilisé, parce qu'au début, il n'a pas réussi à le faire. Et il voulait absolument sortir du bidonville, il n'arrivait absolument pas à louer dans le privé, et on n'avait pas droit à HLM. Les Algériens avaient accès au HLM, mais il n'y avait pas d'accord. Le Portugal n'avait pas fait d'accord. Ils avaient des accords de main-d'œuvre, mais ils n'avaient pas des accords là-dessus. Et donc, on n'avait pas droit au HLM, pas plus que, par exemple, quand j'ai fait mes études, je n'avais droit à une bourse, par exemple. On était vraiment des étrangers, quoi. Et cette situation d'étrangers m'a aussi beaucoup marqué, en dehors de la honte, du racisme aussi. On était les Portugais. C'était marqué géographiquement, parce qu'on était en dehors de la ville, dans ce marécage qui était en contrebas un petit peu de la route. C'est un moment où je suis assez partagé, c'est-à-dire que je pourrais aussi vous raconter plein de beaux souvenirs. Mais ce qui reste, c'est surtout cette honte, quoi. L'immigration portugaise, c'est à ce moment-là une chance inouïe. Là. Je pense qu'il y a des employeurs qui se sont dit, mais quelle merveille d'avoir une main-d'œuvre qui vient de la campagne, qui n'a pas de conscience ouvrière, puisque c'est souvent des paysans, qui vient d'un pays où la valeur travail est la valeur fondamentale depuis toujours, qui n'est pas revendicative, qui arrive sans papier, donc qu'on peut exploiter facilement. Qui n'a pas souvent de qualification. Je pense que les employeurs français n'avaient pas rêvé meilleure main-d'œuvre. Surtout que, encore une fois, c'est des gens qui vont, dans un premier temps, rester en retrait. Mon père a toujours eu peur d'être envoyé.
Expulsés.
Notamment en 68. Les gens, il y a une frayeur, il y a des gens qui vont partir en catastrophe au Portugal parce qu'ils ont vraiment peur d'être expulsés de France. Donc, quand vont arriver les événements de 68, cette angoisse va devenir énorme, quoi. Les gens partent n'importe comment, il n'y a pas de transport, mais les gens se démerdent pour arriver au Portugal. Donc c'est une manne incroyable. Pas seulement les Portugais, mais avec les Algériens et d'autres immigrations, les Yougoslaves, les Italiens. C'est essentiellement eux qui vont être la main-d'œuvre qui va reconstruire la France. D'ailleurs, on ne dit pas travailleurs immigrés, on dit main-d'œuvre. C'est très clair, c'est-à-dire les gens viennent pour travailler. Ils doivent fermer leur gueule. Et à ce moment-là, il n'y a pas le droit d'association quand on est étranger. Évidemment, on n'a pas les mêmes droits. On a des cartes renouvelables et qui peuvent ne pas être renouvelées en cas de chômage. Donc, tout ça fait que les gens vont vivre un petit peu ces premières années, j'irais ces années provisoires, dans la peur. Ils viennent d'un pays déjà où ils étaient complètement soumis. Ils essayent de sortir de ce joug, de cette soumission de Salazar. Et ils arrivent dans un pays où ils sont étrangers, où ils n'ont pas les mots pour se défendre, simplement. Parler une langue pour se défendre. Et donc, bah, ils vont courber les chines. Et je me souviens d'avoir demandé un jour à un Portugais qui avait passé sa vie qu'à travailler et amasser de l'argent pour construire des maisons au Portugal, pour acheter des appartements pour louer, pour acheter 2 ou 3 voitures. Et je lui pose la question, parce qu'il me disait, les Portugais ont été des bons travailleurs. Je lui disais, mais des bons travailleurs ou des bons esclaves? Il n'est pas du tout surpris par la question. C'est ça qui m'a étonné. Et il me dit, esclave. Oui, bon, on n'avait pas le choix. On voulait sortir de la misère. Et pour sortir de la misère, eh ben, on a travaillé le week-end, tous les jours, samedi, dimanche compris, quoi. On a travaillé. Voilà, on faisait que ça.
Nous allons écouter ce matin la suite des précisions que M. Roberini, chef du service de liaison et de promotion des migrants, a bien voulu nous donner.
L'effort n'est pas terminé, il reste encore à faire. On envisage de construire une cité de transit de 76 logements. On disposera de logements HLM sur Champigny et ailleurs pour permettre à l'administration de procéder au relogement des familles qui sont actuellement encore installées dans le bidonville et dont le nombre s'élève à 300 environ.
Moi j'ai grandi en cité transit, c'est-à-dire dans un endroit qui a été construit pour reloger et éduquer, formater les gens qui venaient du bidonville.
Hugo dos Santos, réalisateur du film documentaire Transit, arrivé en France à l'âge de 2 ans, raconte l'histoire de son quartier sans nom.
C'était un bidonville qui était situé à Conflans-Sainte-Honorine, donc en banlieue parisienne, qui était peuplé, on va dire, à majorité de Portugais, mais également de beaucoup de Marocains. Et une partie de cette population a été amenée dans la cité où j'ai grandi, qu'on appelait Cité Transit, tout simplement, ou La Transit. C'était en tout cas la phase transitoire, pour le coup, qui a permis après d'accéder à la propriété pour certains. Il se trouve que dans cette Cité Transit, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de Portugais. même si bon, les gens ont vieilli et font beaucoup d'allers-retours avec le Portugal. C'est des immeubles qui sont pas très élevés. Le plus élevé fait 9 étages. À l'époque, c'était juste des carrés très moches, très dégradés. Les volets qui tombaient, les cages d'escalier qui étaient sales. On n'avait pas de bus. C'était un endroit qui était triste, vraiment triste.
Comment vous le ressentiez, vous ?
On le vivait comme un reclassement extrêmement violent. Quand on était petit, on devait traverser la nationale à quatre voies, une autoroute littéralement, par un passage piéton pour aller à l'école. Il y avait plusieurs personnes qui mouraient par an. Et quand j'étais petit, j'ai une petite fille qui avait presque mon âge, qui est décédée, qui a été renversée par un camion. Quand j'ai fait mon film, j'ai été étonné d'apprendre que l'histoire de cette petite fille avait été transmise. Après cet accident, la Cité Transit a occupé la Nationale et on a réussi à obtenir une passerelle en bois très moche qui existe encore dégradée, mais au moins on ne meurt pas. Et du coup, les jeunes de la cité savent que c'est parce que cette petite fille est morte.
Le 25 avril 1974, c'est la révolution des œillets.
Une fête, une véritable fête qui a dépassé toutes les espérances. Des milliers et des milliers de Portugais dans les rues de Lisbonne, des militaires fraternisant avec la foule, des agents de police réglant la circulation avec un œillet rouge, des hommes pleurant, chantant, dansant. Il fallait être à Lisbonne ce 1er mai pour comprendre ce qu'un peuple peut ressentir au contact de la liberté retrouvée. Lisbonne n'est qu'une immense kermesse sous le soleil, où jeunes et moins jeunes se sont tous retrouvés pour chanter cette Vila Morena, une chanson devenue l'hymne du Portugal libéré.
Le 25 avril 1974, juste après minuit, la radio diffuse au Portugal cette chanson de Zeca Afonso, Grandola Vila Morena, enregistrée dans un studio à Paris avec le son des pas dans le gravier. Ce sera le signal du déclenchement du coup d'État qui mettra fin à plus de 40 années de dictature.
En cada esquina un amigo, en cada... Rosto de igualdade, Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
José Vieira, la révolution des œillets le 25 avril 1974, à ce moment-là, est-ce que beaucoup décident de retourner au Portugal ?
Les seuls qui vont décider de retourner au Portugal, c'est les militants politiques ou des déserteurs de l'armée. Ils ne vont pas tous retourner d'ailleurs. L'immigration, entre guillemets, plus économique, parce que tout ça est politique évidemment, cet exode est hautement politique, puisqu'on parlait tout à l'heure de plébiscite par les pieds contre le régime, la plupart des gens vont rester là. Ce qui va changer, pour moi, ça a été fondamental. Pour moi, c'est fondamental parce qu'en 1974, j'ai 16 ans. Je sais déjà que je n'irai jamais faire l'armée au Portugal, que je n'irai pas faire cette guerre. C'est une délivrance, totale délivrance. D'abord parce que c'est la chute du fascisme, clairement. C'est un moment fabuleux, quoi. D'ailleurs, c'est l'anniversaire, le 48e anniversaire. Il y a eu 48 ans de fascisme et depuis, il y a eu 48 ans de, entre guillemets, de démocratie formelle et représentative. Pour moi, c'est une date qui est fondamentale dans ma vie, quoi. Ça veut dire que que je peux retourner au Portugal.
Les hommes en âge de faire leur service militaire peuvent donc retourner au Portugal et les migrations portugaises vers la France diminuent drastiquement. Victor Pereira.
En 1974, il y a une conjonction de choses. D'une part, il y a eu déjà 900 000 Portugais qui sont venus en France, donc cet excédent de main-d'œuvre s'est déjà réduit. D'autre part, en 1974, c'est la crise économique qui touche la France, et donc une réduction.
Après le premier choc pétrolier en 1973.
Et c'est la révolution des œillets au Portugal. Et donc un certain nombre de personnes soit reviennent au Portugal, soit restent au Portugal, qui devient une démocratie. Et néanmoins, c'est une migration qui ne s'arrête vraiment jamais. C'est-à-dire que jusqu'à nos jours, il y a encore des Portugais, les salaires étant beaucoup plus bas au Portugal qu'en France, qui continuent de venir. Donc les années 80, 90, 2000, 2010, surtout 2010 après la crise économique qui a très fortement touché le Portugal et la hausse du chômage. Donc en fait, c'est une histoire qui ne se termine pas et qui n'est pas prête de se terminer.
L'émigration portugaise se tarit sans s'arrêter complètement. De son côté, José Vieira continue de recueillir les témoignages de ceux qui aujourd'hui sont âgés et qui garde cette mémoire. Son dernier film, intitulé « Nous sommes venus », résonne comme un écho entre l'émigration qu'il a lui-même vécue avec ses parents et celle de milliers d'Africains subsahariens qui traversent aujourd'hui les frontières vers l'Europe, dans la souffrance et en quête d'un autre avenir.
C'est un peu l'histoire de l'homme qui voudrait un peu oublier par où il est passé des fois, qui est fatigué un peu de dire « bon,
José Vieira.
Je ne vais pas passer ma vie à raconter cette histoire ». Et l'actualité sans cesse le renvoie à cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, moi je pense à l'exode des Syriens, par exemple, à partir de 2014, qui fuit la guerre en Syrie. Je pense aux jeunes Africains qui fuient les dictatures et les guerres en Érythrée, en Guinée-Conakry. Donc je vois ces gens arriver, on les voit partout à Paris, les gens sont là, quoi. Donc on est sans cesse renvoyé à notre histoire. Et puis je me dis, à quoi ça sert de travailler sur notre mémoire si cette mémoire ne nous sert qu'à faire des films, par exemple, ou à élever des monuments, pour dire « voilà, ça s'est passé ». Pour moi, c'est automatique de faire le lien, parce qu'on a là exactement les mêmes raisons d'émigration, c'est-à-dire la guerre, la misère, le fait pour les jeunes, par exemple, quand on a 15, 16 ans, de ne pas voir d'avenir possible dans son pays et de se dire, là-bas en Europe, peut-être que j'aurai un avenir. Et moi, je pense que c'est cette question-là que s'est posée mon père. Il ne voulait pas qu'on aille à la guerre. Cette guerre coloniale en Mozambique, en Angola et en Guinée n'avait rien à voir avec nous, quoi. Donc, je pense que mon père avait aussi ça dans la tête, c'est-à-dire, mes enfants, je ne veux pas qu'ils aillent à la guerre, quoi. Parce que cette guerre n'est pas la nôtre, c'est une guerre coloniale. D'ailleurs, mon père avait été en Guinée, mon père avait essayé d'émigrer en Guinée, en Afrique, donc, en Guinée-Bissau, oui. Il est parti, il s'est endetté pour payer son voyage, il voulait s'installer là-bas, et puis il est arrivé c'était en 61, et la guerre s'est déclenchée. Au moment où il était à Bissau, la guerre s'est déclenchée en Angola, et il a regardé un peu autour de lui, il a vu un peu comment ça se passait. Il ne supportait pas ce rapport colonial. C'est-à-dire, les Africains sont les esclaves des Portugais, quoi. Pour lui, c'était inconcevable de vivre là-bas, quoi. Parce qu'il ne supportait pas cette relation-là et la façon dont les Africains étaient exploités par les Portugais.
Alors qu'on était en pleine période de décolonisation, par ailleurs.
Oui, on était en pleine période de décolonisation, et en 61, le Portugal se fait condamner par l'ONU pour sa politique coloniale, et continue, alors c'est au moment où commence la guerre, et ça va durer encore 13 ans cette guerre, 14 même, puisque la décolonisation c'est 1975, donc chute de la dictature en 74, décolonisation en 75, donc les pays, l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau deviennent indépendants.
Au début des années 2000, je regardais la télévision avec mon père.
L'historien Victor Pereira.
Et c'était la période où beaucoup de bateaux venaient du Maroc et venaient échouer en Espagne. Et mon père s'est exprimé, a dit « mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, ces gens ?» Et j'avais été éberlué, parce que lui-même était venu irrégulièrement en France. Et il n'avait pas de sentiment particulièrement d'empathie. Et en tant qu'historien, c'est intéressant, en tant que fils, c'est troublant, mais en tant qu'historien, c'est que des gens qui ont vécu certaines épreuves ne sont pas toujours douées, elles peuvent l'être, mais elles ne sont pas toujours douées d'empathie pour des gens qui vivent des situations similaires. Et le film de Joseph Vieira est l'inverse. Il essaye à tout prix de relier, de créer une grande histoire, qui est l'histoire des migrations d'étrangers qui viennent en France et qui y trouvent un accueil plus ou moins hospitalier. Et il essaie de montrer, en entremêlant des témoignages de Portugais avec des images actuelles de migrants maghrébins ou subsahariens ou syriens, l'unité de l'expérience. Alors après, il y a des grandes différences qu'il montre bien dans le film. C'est-à-dire que, certes, les Portugais, ça a été extrêmement difficile, mais au bout d'un moment, comme on l'a déjà dit, les sauvées françaises ont ouvert les frontières pour notamment diminuer ces drames politiques qu'actuellement l'Union européenne et la France ne font pas du tout et continuent de militariser, de blinder les frontières, ce qui est synonyme de souffrance et de mort.
Érythréen ? Je suis érythréen.
Extrait du témoignage d'un érythréen filmé à Hendaï, à la frontière entre la France et l'Espagne, dans le documentaire « Nous sommes venus » de José Vieira.
Quand j'étais au service militaire, j'ai compris que le gouvernement nous opprimait et j'avais besoin de liberté.
En 2011,
j'ai traversé la frontière soudanaise. On nous a tiré dessus.
Un autre groupe est avec moi. 8 personnes ont mort à la frontière.
Dans le groupe où j'étais, 8 personnes ont été tuées à la frontière.
After 7 years, I came into Libya.
7 ans après, je suis arrivé en Libye.
After 5 months,
5 mois plus tard, j'ai rejoint l'Italie. Après, je suis parti en France.
So I came to all borders.
J'ai traversé toutes ces frontières, tous ces pays, Libye, le Sahara, l'Italie. Je suis venu en Europe non pour l'argent, mais parce que j'ai besoin de liberté.
I need freedom.
L'histoire est beaucoup plus violente, mais les mêmes mots reviennent.
José Vieira.
Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans ce film, de dire, voilà, d'où que les gens viennent, où qu'ils aillent, il y a un espace commun, il y a un espèce de lieu en commun où les gens vivent finalement le même déracinement, la même violence, quoi. Les gens oublient souvent que l'immigration, c'est pas juste passer des frontières géographiques. L'immigration, c'est, comme disait John Berger, c'est défaire le sens du monde. C'est partir dans l'inconnu, et ça, c'est extrêmement violent. Ça a été extrêmement violent pour mon père parce que c'était déjà quelqu'un qui avait 48 ans. Alors évidemment, pour un enfant, c'est moins violent parce qu'il va s'adapter très vite, il va aller à l'école et il va apprendre très vite le français. Mon père est resté 15 ans en France, il ne savait pas parler le français, par exemple. Donc c'est resté, ces 15 ans d'immigration pour lui, c'est une blessure énorme parce qu'il n'a jamais pu retrouver sa dignité. Mon père qui était très fier, comment il peut être digne quand il est obligé de mendier à ses enfants? Parce que moi, je n'avais pas envie d'aller avec mon père à la sécurité sociale, au commissariat pour le traduire. Il n'avait aucune envie. Il est obligé de mendier à ses enfants, de l'accompagner. C'est une perte de dignité énorme. Comment quelqu'un qui sait lire, écrire le portugais, qui sait faire des choses, qui a une petite entreprise, tout d'un coup se retrouve analphabète, brusquement étranger comme ça, sans pouvoir surpasser cette chose-là, qui est pris sans cesse du mal du pays, qui n'a qu'une envie, mais qu'une envie, c'est de repartir d'où il vient. Parce qu'ici, pour lui, c'est insoutenable.
C'est la fin de cette émission de La Marche du Monde, consacrée à l'émigration portugaise des années 60-70, une émigration souvent douloureuse, comme le décrit José Vieira dans ses nombreux documentaires, dont Nous sommes venus, une histoire bien présente aux frontières de l'Europe. La Marche du Monde vous était proposée cette semaine par Véronique Guémard, réalisée par Sophie Janin. Un épisode à retrouver sur le site RFI.fr, Twitter et Facebook. Réagissez, exprimez-vous, cette émission, c'est la vôtre.
L'épopée des musiques.